Vous êtes sur RTL.
Et c'est à vous, Vincent Parisot, pour 2 heures d'info avec RTL Soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est parti pour RTL Soir. 2 heures d'info avec à la une la décision qui change tout pour l'ensemble des salariés ayant été exposés à l'amiante dans leur vie professionnelle. Ils peuvent désormais faire valoir un préjudice d'anxiété. Décision aujourd'hui de la Cour de cassation. Jusqu'à présent, la justice ne l'admettait que pour les personnes étant particulièrement exposées dans certains établissements. Des dizaines de milliers d'ouvriers du bâtiment, dockers ou autres, vont donc pouvoir, sous condition, revendiquer ce préjudice d'anxiété qui permet d'indemniser les personnes non malades, mais inquiète de pouvoir le devenir. Explication dans un instant et à 18h20, Michel Parigot, le fondateur de l'Association nationale des victimes de l'amiante. Il sera l'invité d'RTL Soir. La première édition, c'est avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres?
Une famille de victimes de l'attentat de Nice accuse la mairie de faute. C'est une information RTL. Elle met en cause les agents du dispositif de sécurité qui n'étaient pas formés à la vidéosurveillance. Les associations d'aide aux migrants, complices des passeurs. Déclaration troublante de Christophe Castaner qui semble donner raison à l'italien Matteo Salvini. Indignation à Lyon, toute une avenue a été taguée de croix gammées et d'insultes racistes. Non loin de là, le centre d'histoire de la Résistance. À suivre également des établissements spécifiques pour ces élèves ingérables renvoyés de partout, un peu comme les anciennes maisons de correction. Jean-Michel Blanquer y réfléchit. Total dans le viseur d'Anne Hidalgo pour Paris 2024. La maire de Paris veut des sponsors écologiques et éthiques. Et puis les méfaits de l'interminable Brexit. Les fonctionnaires britanniques sont au bord du nervous breakdown. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,23% à 5476 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité après l'avis de l'autorité de la concurrence favorable au développement de la vente des médicaments sans ordonnance en grande surface et sur Internet, eh bien nous verrons ce qui aujourd'hui peut s'acheter en ligne. Dans la foulée, l'invité d'RTL Soir, donc on l'a dit, le fondateur de l'Association nationale des victimes de l'amiante, puis direction les coulisses de l'actu. On vous emmène dans les coulisses du Puy du Fou, le deuxième parc de loisirs de France derrière Disneyland Paris. Il rouvre ses portes demain pour une nouvelle saison. À 18h30, ce sera Olivier Mazerolle qui reviendra sur le débat des européennes hier soir sur France 2. À 18h35, la comédienne Céline Salette avec Romain Duris. Elle est à l'affiche de Vernon Subutex, la série événement adaptation des romans de Virginie Despentes, diffusée à partir de lundi prochain sur Canal+. Et puis à 19h15, comme chaque soir, on refera le monde. La météo, Valérie Quintin, avec beaucoup d'instabilité, mais tout de même un regain de douceur dans le nord du pays.
Oui, c'est vrai qu'on va gagner en douceur. 19 degrés demain après-midi pour Strasbourg, Auxerre ou encore Paris, avec du soleil le long des frontières du nord, des éclaircies et peut-être quelques ondées entre la Normandie, l'Île-de-France et la Franche-Comté. Et puis alors partout ailleurs, ce sera beaucoup plus chargé. On attend des pluies assez fréquentes de la Bretagne jusqu'à la Méditerranée, avec d'ailleurs de gros orages et de fortes rafales de vent en PACA, surtout demain matin. Notez qu'il y aura du coup de la neige en montagne aux alentours de 1200 mètres. Température au réveil un peu fraîche quand même, hein, de 0 à 9 degrés entre Nancy et Montpellier.
Merci Valérie, on vous retrouve tout à l'heure.
RTL Soir.
C'est donc une grande victoire pour les victimes de l'amiante. Le préjudice d'anxiété est désormais reconnu pour tous les travailleurs concernés.
Oui, le préjudice d'anxiété, rappelons-le, ça concerne les personnes qui ne sont pas malades de l'amiante, mais qui savent qu'elles peuvent l'être à tout moment. Jusqu'à présent, les indemnisations étaient réservées à certaines catégories de travailleurs. Un système injuste et discriminatoire, selon les associations. Virginie Garin, bonsoir.
Bonsoir.
Désormais, tout le monde peut y prétendre, mais il faudra prouver qu'on a été exposé à l'amiante, et ça, eh ben, ça n'est pas simple.
Voilà, il y aurait environ 2 millions de personnes en France qui un jour ont travaillé au contact de l'amiante, dans la métallurgie, le bâtiment, et qui aujourd'hui vivent donc dans l'angoisse d'avoir un cancer. Elles sont pour la plupart retraitées, l'amiante a été interdit il y a 22 ans. Pour les associations qui les représentent, c'est donc une première victoire, mais ça ne veut pas dire que tous ces ouvriers seront indemnisés, loin de là. Il faudra d'abord qu'ils aillent devant un tribunal, ensuite qu'ils prouvent que leur employeur les a exposés au risque, n'a pas respecté les règles de sécurité prévues par le code du travail, comme par exemple porter un masque. Donc, il faudra sans doute des actions collectives. Un ouvrier qui a travaillé dans une PME du bâtiment qui voudra tout seul demander réparation aura plus de mal. Alors, ce préjudice d'anxiété avait déjà été reconnu pour certains salariés des chantiers navals ou de la transformation de l'amiante. Eux ont obtenu en moyenne 10 000 euros d'indemnité.
Virginie Garin, on y revient donc à 18h20.
un professeur de français soupçonné d'avoir violé 50 enfants en Asie. Cet expatrié de 51 ans a d'abord été interpellé en flagrant délit en Thaïlande, mais relâché. Il a finalement été arrêté le 30 mars à son retour à Besançon. Il était installé en Malaisie depuis le début des années 2000.
Allez, on en vient à cette info RTL. Une famille de victimes de l'attentat de Nice accuse la mairie de faute.
Deux juges enquêtent depuis 2 ans sur d'éventuelles failles dans le dispositif de sécurité le soir du 14 juillet 2016. Après avoir consulté un rapport d'enquête, la famille met en cause les agents chargés de la vidéosurveillance. Thomas Proutot, vous avez eu accès à ce rapport assez accablant.
Absolument, car les enquêteurs ont interrogé les 29 agents du centre de supervision urbaine de Nice, en poste avant et pendant l'attentat. Ce centre, c'est là où sont coordonnées les caméras de surveillance de la ville. Et le constat des policiers est plutôt embarrassant pour la mairie. Aucune formation spécifique n'avait été dispensée à ces opérateurs, écrivent-ils, ni en matière de vidéosurveillance, ni en matière de réglementation routière, de transport de marchandises ou d'horaire de livraison. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, parce que l'enquête principale sur l'attentat a établi que l'assaillant avait effectué 13 repérages sur la promenade des Anglais au volant de son 19 tonnes, poids lourd pourtant interdit sur la prom. Pour l'avocat de la famille du petit Yanis, 4 ans, fauché le soir de l'attentat, ce défaut de formation constitue donc une faute de la mairie. Il demande au juge d'entendre l'ancien maire Philippe Pradal, qui avait alors remplacé Christian Estrosi pour cause de cumul des mandats. Interrogé par RTL, la mairie de Nice balaye ce soir ses accusations et rétorque. Qui peut croire qu'un attentat terroriste aurait pu être évité par une formation à la circulation, qui plus est exigée par aucun cadre réglementaire ? Fin de la citation. Au magistrat à présent de décider des suites à donner.
Thomas Proutot. Les ONG d'aide aux migrants, complices des passeurs. Une déclaration de Christophe Castaner sème le trouble.
Le G7 des ministres de l'Intérieur était réuni depuis hier à Paris. L'Italien Matteo Salvini a dénoncé le rôle des associations en Méditerranée. Il a affirmé qu'il était soutenu par ses collègues allemands, britanniques et français. Confirmation et précision ce matin de Christophe Castaner.
Les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter une aide aux migrants, cela ne fait aucun doute. Toutefois, en Méditerranée centrale, on a observé une réelle collusion à certains moments entre les trafiquants de migrants et certaines ONG. On a observé que certains navires d'ONG étaient ainsi en contact téléphonique direct avec des passeurs qui facilitaient le départ des migrants depuis les côtes libyennes dans des conditions effroyables, souvent au péril de leur vie. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs.
Christophe Castaner au micro RTL d'Olivier Bois. Et voici la réponse de Sophie Rahal. Elle est la porte-parole de SOS Méditerranée.
Nous ne contactons jamais les passeurs. Il n'y a absolument aucun contact, qu'il soit téléphonique ou autre, entre les équipes de SOS Méditerranée et les passeurs qui sévissent en Méditerranée. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées par des juges en Italie. Ils ont beaucoup fouillé. Aucun juge italien n'est en mesure aujourd'hui d'accuser une ONG humanitaire d'être en collusion avec des passeurs. Moi, je l'interprète simplement comme une méconnaissance totale de la manière dont travaillent les équipes de SOS Méditerranée en Méditerranée centrale. C'est une nouvelle manière de décrédibiliser notre travail et en plus de criminaliser notre action. C'est ça le plus lamentable aussi.
La porte-parole de SOS Méditerranée, jointe pour RTL par Nicolas Burnand.
À Lyon, colère et indignation, puisque des croix gammées et des insultes racistes ont été taguées tout au long d'une grande avenue.
Avenue Berthelot, celle où se trouve le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Alors ce bâtiment n'a pas été touché, mais plusieurs commerces et un cabinet d'infirmiers ont été couverts d'inscriptions. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, était à Lyon. Elle s'est rendue sur place. À ses côtés, le maire Gérard Collomb.
Nous avons des slogans néo-nazis, néo-fascistes, à la fois les croix gammées, des insultes contre les Arabes, contre les Noirs. Et donc c'est totalement insupportable dans la ville de Jean Moulin. Il existe aujourd'hui un certain nombre de gens qui se réclament d'une idéologie nazie et donc qui veulent poursuivre et faire que l'histoire recommence à nouveau. Donc nous sommes venus immédiatement pour condamner évidemment ces actes qui sont insupportables.
Gérard Collomb au micro RTL de Frédéric Perruche.
Allez, on marque une courte pause dans le journal d'Isabelle Choquet et dans un instant, le retour annoncé des maisons de correction, ou presque.
18h09. RTL Soir. Il est 18h10, RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et cette question, que faire des élèves ingérables renvoyés d'établissement en établissement ? Le ministre de l'Éducation réfléchit à un dispositif qui rappelle furieusement quand même les antiques maisons de correction.
Jean-Michel Blanquer estime qu'il est anormal qu'il n'y ait pas de structure pour ceux que l'on appelle les poly-exclus, ces élèves renvoyés de partout et qui errent finalement d'établissement en établissement en semant la pagaille. Sur BFM TV, le ministre a indiqué qu'il souhaitait créer un nouveau dispositif dispositif dès la rentrée prochaine. Réaction de Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, la principale association de parents d'élèves.
On a compris dans la déclaration du ministre qu'enfin on allait prendre en compte le fait qu'un enfant est éducable et qu'il n'y a aucun enfant qui est une cause perdue. Et ça retire un peu cette idée que la gifle dans la figure ou la prison, c'est ce qui est nécessaire pour les enfants qui, d'une certaine façon, ne collent pas au système traditionnel de l'éducation nationale, où on a quand même la sensation que la répression, finalement, et l'exclusion devenaient un peu la règle. Ce qu'on a du mal à voir, par contre, ce sont les moyens qui vont être affectés à cela. Donc, c'est des éducateurs, c'est des psychologues scolaires, c'est tous des personnels qui sont là pour comprendre de façon empathique pourquoi un enfant a dévié. Donc, on attend de voir, en fait, les moyens qui seront affectés à cette mesure.
Voilà, Rodrigo Arenas de la FCPE, joint pour RTL par Armel Lévy.
Question, est-ce que Paris 2024 peut se passer de Total ? La question est désormais sur la table.
Il manque 1 milliard 200 millions d'euros pour boucler le budget des Jeux Olympiques. À ce niveau-là, on pourrait dire que l'argent n'a pas d'odeur, mais Anne Hidalgo a le nez délicat. Dans un courrier adressé à Tony Estanguet, la maire de Paris estime que les sponsors des JO doivent respecter certains principes écologiques et éthiques. Arnaud Touche, vous avez pu lire ce courrier pour RTL. On comprend entre les lignes qu'il s'agit de Total.
Oui, dans cette lettre que nous avons pu consulter, la maire de Paris écrit clairement qu'il serait difficilement compréhensible que soient retenues des entreprises dont l'activité aurait un lourd impact sur l'environnement, en se fondant notamment sur le recours massif à des énergies carbonées. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques se défend et explique parler avec plusieurs entreprises françaises, mais de sources proches du dossier, eh bien, les discussions sont déjà bien avancées avec le groupe Total. À ce jour, il n'y a qu'un seul partenaire officiel qui s'est engagé, il s'agit du groupe bancaire BPCE. Et le sujet des partenariats des JO est extrêmement sensible. On ne fait aucun commentaire, dit-on avec vigueur chez Total aujourd'hui. En fait, le comité d'organisation doit trouver plus d'1 milliard d'euros pour boucler une partie du budget des Jeux et il sera franchement difficile de faire sans l'argent de ces grandes entreprises. L'édile de Paris ne veut pas intervenir dans cette décision, elle ne le peut pas et dans ce courrier, elle ne fait qu'exprimer un désir. Pour arrondir les angles, le comité, présidé par Tony Estanguet, dit partager les ambitions environnementales avec Anne Hidalgo. Les entreprises, y compris Total, devront donc s'engager sur des JO responsables s'ils deviennent partenaires.
Merci Arnaud Touche. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a démissionné, mais la mobilisation ne faiblit pas. Nouvelle manifestation monstre aujourd'hui à Alger pour le 7e vendredi consécutif. Les Algériens réclament le départ de l'ensemble du système au pouvoir.
Et direction maintenant le Royaume-Uni, parce que l'interminable feuilleton du Brexit met le pays au bord de la crise de nerfs.
Dernier épisode en date, Theresa May a demandé ce matin un report jusqu'au 30 juin, autrement dit au-delà des élections européennes. Donald Tusk n'a pas encore répondu, mais déjà la France riposte. Elle parle d'une demande prématurée, faute de plan clair et crédible. Et pendant ce temps, à Londres, on s'arrache les cheveux, à tel point, Marie Billon, qu'un ministère a mobilisé des psychologues pour ses fonctionnaires.
Et oui, des professionnels employant une approche cognitivo-comportementale accessible dans les locaux même du ministère. Le contrat de 3 mois a coûté plus de 42 000 euros, mais c'est de l'argent bien dépensé, selon le gouvernement. Il faudrait peut-être même le généraliser à tous les 11 000 fonctionnaires dédiés au Brexit. Et ils en auraient bien besoin, parce que certains ont été réquisitionnés au pied levé pour se consacrer à 100% à la sortie de l'Union européenne. Ils sont parfois obligés d'accepter des horaires décalés, la nuit ou le week-end, sans parler des heures supplémentaires. Les plus stressés seraient ceux en charge des préparations pour une sortie sans accord. Et l'inquiétude ne diminue pas, le Brexit n'en finit plus. Alors certains adoptent leur propre méthode, yoga ou pilates, avant ou après le travail, kiné, entre midi et deux aussi. Un diplomate avoue qu'il psychosomatise tellement que son docteur a baptisé son mal. Il a un Brexit neck, un coup du Brexit. Les politiques ne sont pas mieux lotis. Un député dit avoir perdu 10 cm de tour de taille à force de se faire du mourront. Quant à Theresa May, son diabète est contrôlé par ses docteurs, mais le Parlement aurait quand même mis en place un plan d'urgence pour l'évacuer de Westminster si jamais elle s'effondre à la Chambre des communes.
Marie Billon à Londres pour RTL. Coup d'envoi ce soir du SIDAction. 3 jours de mobilisation car la maladie est loin d'être vaincue. Il ne faut pas banaliser. Vous pouvez faire vos dons par téléphone au 110 ou sur le site sidaction.org. Et puis Pelé donne de ses nouvelles sur Twitter. Je me sens beaucoup mieux, écrit la légende du foot, hospitalisée depuis lundi soir à Paris pour une infection urinaire. Je me sens prêt à jouer à nouveau, ajoute-t-il. Pelé, 78 ans. Bon pied, bon oeil.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Et maintenant les clés pour bien comprendre l'actualité.